Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 410. Et donc pour ce numéro 410, période de pont oblige, on s'est posé une question importante et qui a une belle résonance des entreprises, c'est la notion de bien-être. Voilà. Et comment est-ce que, au sortir de du déclaratif, il faut toujours développer du bien-être, c'est mieux que du mal-être. Comment est-ce qu'on fait concrètement et avec des techniques qui sont éprouvées? Et pour ça, j'ai trouvé une personne sur le salon Solutions RH que j'ai beaucoup appréciée et donc je voulais le faire découvrir. C'est Johan Divaré. Bonjour Johan.
Bonjour.
Johan Divaré, donc tu es CEO de Synesis
Oui.
et donc es venu nous parler bien-être. Et donc, déjà, première question, pour toi, c'est quoi la définition du bien-être? Parce que chacun a un peu sa définition, bonheur, bien-être, risque, hein?
Ouais, bien sûr. Effectivement, chacun peut y mettre les mots qui parlent un peu à chacun en fonction de leur histoire. Après, c'est vrai que moi, derrière le bien-être, pour moi, c'est avant tout une reconnaissance pour l'employé. C'est un mélange de plusieurs facteurs, à la fois au niveau physique, au niveau mental. C'est une sorte de cadre qui permet à chaque individu de se sentir à sa place dans son lieu de travail.
Et est-ce que tu dirais que est-ce que c'est plus le rôle du salarié à développer son bien-être ou est-ce que c'est plus à l'entrepreneur de se dire, il y avait un auteur qui disait qu'il faut le manager devient un coach, un manager coach ou un manager psychologue.
Pour moi, le manager, moi je viens du milieu sportif, donc forcément
Ouais.
la notion de coach et d'encadrement, c'est quelque chose qui me parle. J'étais sportif de niveau pendant de nombreuses années et j'ai ensuite évolué dans le sport de niveau, pas sur l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en étant kiné-ostéo et j'ai accompagné aussi les athlètes sur tout du versant, je dirais, plus relationnel et mise en place de l'optimisation de la performance. Donc c'est vrai que le côté coach pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui doit réussir à comprendre chaque individu et à faire en sorte que chaque individu fonctionne l'un avec l'autre. Et pour ça, forcément, ça a trait à la curiosité de la part du manager et à une capacité à pouvoir comprendre et à avoir un minimum d'empathie. En tout cas, chacun est différent, chacun a son mode de fonctionnement. Mais ce qui est certain, c'est que la qualité première pour moi d'un manager, c'est de pouvoir être à l'écoute, comprendre et après pouvoir du coup appréhender la personne en fonction de son profil et de son mode de fonctionnement individuel. Donc oui, bien sûr, le manager a son rôle, mais pas que. Après, individuellement et personnellement, je pense que chaque employé a besoin pour lui, en cadre de son travail, bien sûr, mais pas que, même au niveau personnel, parce que forcément, on a besoin de savoir comment on fonctionne, pourquoi on réagit de telle façon, pourquoi parfois on va avoir besoin de réagir d'une façon un peu excessive, de se laisser embarquer dans des émotions qu'on ne contrôle pas. Et ça, ce contrôle et apprendre à contrôler et à moduler et travailler sur son mode de fonctionnement, c'est-à-dire se connaître, en fait, c'est important pour pouvoir travailler avec les autres. Et de la même manière, plus on va se connaître, plus on va pouvoir être amené à comprendre aussi l'autre. Et vous voyez, et tu vois, c'est une sorte de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est-à-dire que pour moi, pour que la machine tourne bien, pour qu'elle soit bien huilée, pour qu'un équipage ou une équipe tourne, il faut que tout le monde se connaisse. Et ça, c'est indispensable à mon avis. C'est vraiment le pilier fondamental.
Alors, comment toi tu fais dans ta méthodologie pour faire en sorte que les gens se connaissent? C'est le fameux connais-toi toi-même de Socrate, qui n'a pas marché depuis Socrate et puis qui marche toujours pas vraiment. Donc, quelle est
Non,
ta
toujours pas.
méthodologie, toi, pour y accéder?
Eh ben, alors moi j'ai développé plusieurs outils, dont un outil que j'utilise plus particulièrement dans le monde de l'entreprise, qui est ce qu'on appelle l'intelligence motrice et décisionnelle. Donc ça, c'est notre outil à nous, mais qui s'est basé en fait sur un travail qui a été fait par Ralph Hippolyte et Bertrand Terolaz, qui ont créé Action Type il y a de ça maintenant pratiquement 40 ans, et qui étaient, pour la petite histoire, des entraîneurs de volley de l'équipe américaine et de l'équipe suisse, et qui ont commencé à réfléchir sur des modes différents de fonctionnement au niveau individuel. Et ils se rendaient bien compte qu'en fonction des consignes qu'ils donnaient, et même dans la façon dont les consignes étaient données, le résultat derrière sur l'action en elle-même n'était pas la même. Et à partir de là, ils ont commencé vraiment à potasser là-dessus. Ils ont cherché un petit peu des références. Ils sont partis sur le modèle de Jung, qui définissait des différents types de profils, je dirais, cognitifs. Et il a commencé à établir un lien avec tout ce qui était chaîne musculaire, GDS, qui est un système qui permet de déterminer un mode de fonctionnement moteur. Et là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un réel lien entre le cognitif et le moteur. Et que finalement, le mouvement qui était généré correspondait aussi à un mode de fonctionnement interne au niveau cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Concrètement.
concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un s'était rendu compte qu'en fonction du moyen utilisé pour pouvoir apporter une consigne, la personne allait recevoir correctement l'information ou pas. Et donc après, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'adapter son discours à chaque personne. Alors, dit comme ça paraît hyper logique et évident. Mais en vérité, il a décuplé ça sur tout un tas de différents outils. Par exemple, quelqu'un qui est vertical, c'est quelqu'un, techniquement au niveau moteur, c'est quelqu'un qui aura besoin d'aligner ses articulations. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, par exemple, quand je vais lancer une balle, je vais aligner à la fois ma main, mon coude, mon épaule, pour faire en sorte de pouvoir faire un envoi, pour pouvoir, par exemple, jeter un ballon dans le cercle pas une base de basketball. À l'inverse, quelqu'un qui est horizontal, mécaniquement parlant, aura besoin d'écarter son coude légèrement sur le côté pour créer un biais même avec son corps pour pouvoir ensuite aller viser sa cible qui serait le cercle. Donc ça, techniquement, ça s'observe. On voit chez les joueurs de basket, par exemple, qu'il y a telle ou telle technique. Ça, c'est un des critères. Et d'un point de vue cognitif, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui est vertical, c'est quelqu'un qui sera direct, qui sera frontal, qui ira directement dans l'action directe, et parfois même il dira des choses qui le dépassent. Alors que quelqu'un qui est horizontal, c'est quelqu'un qui prendra toujours des biais pour pouvoir rentrer en communication avec l'autre. Et il sera jamais frontal, préférentiellement jamais frontal. C'est-à-dire qu'il pourra de temps en temps être frontal, mais il utilisera généralement dans son mode de fonctionnement horizontal. C'est-à-dire qu'il aura besoin d'aller gentiment vers l'objectif à atteindre pour pouvoir arriver à son but. Donc l'idée, c'est ça. Cet outil-là, il sert à quoi? Cet outil, c'est un bilan. Alors, il y a le fameux MBTI que vous connaissez, que tu connais probablement, qui permet de déterminer un profil de personnalité, MBTI, Big Five, le cercle, tout ça, le disque, tout ça. Là, en fait, nous, notre abord, il est par le corps. C'est-à-dire qu'on va rentrer par le corps. On va faire un test de 15 à 20, 15-20 minutes et on va pouvoir déterminer le fonctionnement de l'individu, c'est-à-dire le fonctionnement moteur. C'est-à-dire qu'on va exercer des poussées, on va positionner la personne dans une certaine position et en exerçant ces poussées et la réponse de l'individu à ses poussées, on va déterminer son mode de fonctionnement moteur. Derrière, on va établir un
Alors,
profil.
alors je l'ai testé, ça, c'est bluffant. C'est bluffant d'imaginer que dans la posture, on est capable de savoir comment je résiste et donc finalement comment est-ce que assez facilement on me fait avancer sur une fois qu'on a identifié ma façon de faire.
Voilà, c'est
Donc,
ça,
et tu
exactement.
détermines combien de profils
Alors,
en
il y a
manipulant?
16 profils différents.
D'accord?
Alors avec des nuances. Alors souvent la problématique, et moi pour l'avoir utilisé dans le sport, c'était les limites un peu de cet outil-là, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont l'impression qu'on va cloisonner les gens dans un mode de fonctionnement. Alors en fait c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un mode de fonctionnement préférentiel, c'est-à-dire que naturellement on va plus utiliser ce mode de fonctionnement pour pouvoir agir ou pour pouvoir penser. Mais dans ce profil, vous avez le profil d'action et vous avez aussi le profil de récupération. Et le profil de récupération, pour le coup, est le profil totalement opposé au profil d'action. Ça veut
C'est-à-dire.
dire que quelqu'un qui va être, qui sera, par exemple, qui sera, pour prendre l'exemple le plus simple, parce que je ne vais pas non plus énumérer chaque élément, mais qui sera, par exemple, quelqu'un qui sera vertical. Habituellement, qui sera plutôt direct, qui ira voir la personne directement, qui ira, et pour peu qu'il soit extraverti, ça sera encore décuplé. Et ben, quand il va pas se sentir bien, il va être à l'inverse. Il va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir dire ce qu'il pense, il va y aller par 50 chemins et tout ça. quand il sera pas bien. C'est-à-dire sur des phases, des moments où la personne va être dans un état cognitif où il sera pas bien, où il sentira soit fatigué, malade, ou même dans un état d'usure mentale, eh ben il va avoir plutôt tendance à fonctionner dans son profil opposé. Ce qui fait que parfois c'est compliqué, si vous voulez, avec le, typiquement avec le test de MBTI classique, avec toutes les questions qu'il y a là, qui se fait en ligne, bah en fait, au bout d'un moment, les gens, ils s'usent à force de faire ce questionnaire. Et au bout d'un moment, eh ben, ils vont répondre, ils vont passer dans leur profil opposé, dans les réponses qu'ils vont donner. Et du coup, ça va biaiser totalement le test. Et c'est pour ça que généralement, moi, quand je teste des gens en passant par le corps, du fait que ça dure 10 minutes maximum, la personne n'a pas le temps de s'user et de se fatiguer. Parce que ça reste des tests physiques, c'est pas de l'usure psychologique. Et donc, du coup, ça nous permet d'être centré dessus. Et encore là, tu parlais du salon solution RH. Sur le solution RH, j'ai testé beaucoup de personnes. Et certaines m'ont dit, oh bah tiens, c'est marrant, parce que moi, on m'avait dit que j'étais tel profil et pas celui-ci. Et quand vous m'expliquez quel est mon type de profil, là, ça me parle, et là, je sens vraiment que, alors que la dernière fois, quand on m'avait fait mon profil, je trouvais que ça avait rien à voir avec ce que je ressentais. Alors bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un écart entre le ressenti et la réalité, mais quand bien même, ce que je vais expliquer, bah, tout simplement parce qu'en fait, dans ce test-là, et c'est ça les limites de ce test, je dirais, cognitif, en passant par cognitif, c'est qu'en fait, il y a une usure qui se fait plus ou moins vite, en fonction justement du mode de fonctionnement et du tempérament des gens, et qui du coup, ils vont basculer sur leur mode opposé, ce qui fait que ça floute totalement le système. Donc, une fois qu'on a établi en fait ce profil, donc en passant par le moteur, et ben ça nous donne des informations sur le profil cognitif. Et
Et
derrière,
après, comment est-ce qu'on fait évoluer les gens? Est-ce qu'on les fait évoluer par le cognitif ou par le moteur?
et ben il y a deux solutions. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par le corps. Moi, j'ai été formé par le corps. Je suis pas quelqu'un qui est sur le cognitif de base. Après, bon, là, l'expérience fait qu'au fur et à mesure de mon quotidien et de mes actions en entreprise ou même au sein des fédérations, je suis de plus en plus sur cet aspect-là, et je me rends compte de l'importance que ça a de faire le lien entre les deux. Mais il y a deux possibilités. Moi, je suis kiné de formation de base. Dans mon cabinet, j'ai reçu des gens qui m'étaient adressés parce qu'ils étaient en dépression totale et qu'ils étaient en burn-out, ils avaient complètement explosé en vol, et qui venaient me voir pour des problèmes de dos. De base, et en fait, en travaillant avec eux et en travaillant sur le corps, sur la rééducation du corps, et en discutant aussi, parce que c'est beaucoup d'échanges, et ben en fait, on a réactivé des systèmes au niveau du cerveau qui ont permis après de réactiver des systèmes au niveau cérébral. Donc, moi, en fait, mon travail, il est venu se mettre en place un peu comme une évidence. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait de la prévention d'entreprise depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours été kiné en libéral et j'ai aussi eu mon histoire dans le sport de haut niveau. Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est que souvent, on cloisonnait les choses. Les RPS, les TMS, et on disait, bah, TMS, on va faire une formation TMS, enfin, gestes et postures à l'ancienne, et puis on va faire du RPS là. Alors que pour moi, en fait, tout est lié. Et je vois bien en cabinet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Soit on rentre par le corps, soit on rentre par le cognitif. Après, à certains moments de sa vie, alors ça, il faut être capable de le déterminer, on va rentrer sur le cognitif et ça va être très efficace et ça va fonctionner. On se fait accompagner par les bonnes personnes et ça marche très bien. Et puis après,
Alors,
derrière.
comment je vois à peu près, vu ton parcours, comment tu rentres par le corps, hein, tu fais des exercices, comment tu rentres par le cognitif?
Alors, au niveau du cognitif, là, en fait, l'idée, ça va être de déterminer déjà dans la phase où est la personne. C'est-à-dire, c'est plutôt dans un profil, j'irais, d'action, ou plutôt dans un
D'accord.
profil de récupération. Et à partir de là, on va essayer de déterminer, j'irais, dans une espèce de 8 à l'infini à horizontale, et ça permet de déterminer où la personne se trouve un peu dans son profil d'action ou son profil de récupération. Et par rapport à ça, on détermine en fonction des fonctions, ce qu'on appelle fonctions. Alors c'est comme dans le Jung, hein, pour le coup, fonctions secondaires, fonctions tertiaires. Et ben on va aller stimuler la créativité. Quelqu'un, par exemple, là récemment, j'avais quelqu'un avec qui je travaillais, qui travaillait beaucoup sur du factuel, du concret, de la comptabilité en mode plus plus. Et elle a fait ça une autre partie de sa vie. Elle se rend compte que finalement, ça allait plus. Elle voulait plus faire ça. Quelque chose qui est vraiment où elle n'avait plus envie au travail, elle n'avait plus d'envie, elle a déclenché des problèmes au niveau physique en plus derrière, parce que forcément l'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, il fallait juste réactiver un petit peu les choses au niveau de la créativité. Donc, si il y a la possibilité de le réactiver au sein de son travail et d'aller à un moment donné chercher une petite mission supplémentaire, dans le cadre de son travail et de réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Là, il y a toutes les histoires d'applications qui se mettent en place dans beaucoup d'entreprises. Bah, pourquoi pas aller chercher de ce côté-là, à mettre des systèmes qui sont un peu différents. Et ben, juste le fait de réactiver cette petite zone-là, bah, ça permet de relancer toute la machine derrière. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver, en fonction du profil, il va y avoir la créativité, la compréhension interne, il va y avoir c'est-à-dire la compréhension interne, c'est-à-dire retourner, par exemple, la personne va aller faire une formation sur quelque chose qu'elle avait en tête depuis des années, mais qu'elle a jamais osé faire, même qu'elle n'a pas forcément quelque chose à voir directement avec son métier, et ben, ça va la réactiver et ça va la remettre dans un autre système. C'est-à-dire, faut être capable de réactiver des zones qui se sont progressivement éteintes dans le cerveau. Moi, c'est ce que, à un moment, j'ai qualifié un peu vulgairement de sédentarité mentale. Pour moi, c'est ça. La
Oui, je vois.
sédentarité mentale, c'est quoi? C'est, à un moment donné, les gens sont habitués à faire certaines choses tous les jours dans leur quotidien. Ils répètent ces actions. Et d'ailleurs, on les a mis à ces postes-là parce qu'ils étaient plutôt doués pour
Bien
ça. Mais
sûr.
ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas doués pour faire autre chose. Et au fur et à mesure des années, ils sont dans ce mode-là, dans ce mode-là. Puis au bout d'un moment, ça s'éteint, ça s'use, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Et le cerveau, comme n'importe quelle autre partie du corps, il a besoin d'être activé en permanence. Toutes les zones ont besoin d'être activées, comme le corps humain, en fait, comme les
Ouais.
articulations.
Et alors, finalement, est-ce que pour toi, les profils ou les profilages que tu détermines sont invariants? Ou est-ce qu'on peut se dire, bah, au début de ma carrière, j'étais comme ça, puis finalement, j'ai muté, ou tu te dis, c'est à peu près, on a la zone sur laquelle on a notre confort cognitif ou physique qui est toujours à peu près la même?
Alors, par contre, le profil moteur cognitif, le profil, lui, c'est toujours le même toute sa vie. Par contre, on
D'accord.
va toujours naviguer entre son profil d'ombre et son profil de lumière, en quelque sorte. Et alors, alors pour autant, on peut aller chercher dans d'autres profils, c'est-à-dire qu'à d'autres moments, on va pouvoir avoir un autre mode de fonctionnement qui sera différent de celui-là. Parce que ce qui va venir, le profil, c'est ce qui est ancré dans le schéma moteur. C'est-à-dire qu'il faut imaginer son cerveau avec des chemins très précis entre je dirais l'étincelle, c'est-à-dire le déclenchement du mouvement ou de la pensée et l'action en elle-même. Et ces chemins-là, ils ne changent pas. C'est-à-dire, c'est
D'accord.
structurel, c'est comme ça. Par contre, ce qui va venir changer ça, c'est les motivations profondes. Les motivations profondes, c'est quoi? C'est l'étincelle, l'intensité qu'il va y avoir sur l'étincelle, la façon dont on va amener les choses avant un mouvement ou avant une pensée. Quelle est la motivation profonde de l'individu? Est-ce que ça va être la compétition avec les collègues ou alors ça va être une compétition propre à soi? Est-ce que ça va être de la compréhension, besoin de comprendre les choses, besoin d'expliquer les choses? Est-ce que ça va être un besoin d'être reconnu comme tel ou est-ce que ça va être un besoin d'avoir des gens autour de soi? Et tout ça, ça va venir en fait soit augmenter ce côté, je dirais, profil moteur ou cognitif, sur le côté profil, ou au contraire l'atténuer. Donc ça, après, ça se détermine. Et pour le coup, la motivation profonde, ça, elle évolue vraiment au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être compétition interne, relation externe, et puis à un moment donné, on va basculer, on va changer de mode de fonctionnement. Ça, par contre, ça évolue.
D'accord.
Et alors, ce qui est très marrant, c'est que sur le salon Solutions RH, j'en ai parlé avec une personne qui travaille dans la RH depuis des années, et elle vient me voir, elle était un peu sceptique par rapport à mon outil. Et puis elle me dit, bah écoute, ok, tu vas me tester et tu vas me dire, alors pourquoi pendant toute mon enfance, j'ai été tellement introverti à plus en pouvoir, à être renfermé sur moi, avoir mal vécu cette période-là, et pourquoi aujourd'hui je fais tout l'inverse en fait. Alors je dis, bah déjà, je vais vous tester, et puis donc je la teste et tout ça. Donc elle connaissait déjà son profil, je la teste, et donc je lui dis, bah en fait. En fait, la conclusion, c'était quoi? Je lui ai dit, ben, c'est pas compliqué. Je lui ai dit, en fait, quand vous étiez petite, je pense qu'en fait, vous aviez ce besoin de reconnaissance par rapport aux autres, qui était la source majeure d'alimentation de votre profil. Sauf que là, vous êtes dans une situation où vous étiez petite, vous étiez renfermée, vous étiez plutôt, vous voyez, ce genre de personne introvertie, plus dans son coin, ou parce qu'elle était peut-être un petit peu différente et qu'elle avait besoin de comprendre beaucoup de choses. Donc, ça l'a amenée à être très curieuse de nature et d'avoir un niveau de connaissance qui était très élevé et où elle avait une place un peu particulière dans l'école, parce que c'était un petit peu le petit génie, quoi. Mais le petit génie en mode un peu extraterrestre. Et en fait, mais c'est marrant. Et du coup, en fait, elle s'est enfermée là-dedans, alors qu'en fait, elle était très extravertie. Donc, durant toute une, à un moment de ses études et jusqu'à la fac, grosso modo, continué à être dans ce modèle-là de petit génie introverti, et puis tout d'un coup, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a reconnu sa valeur. Alors c'est vrai que quand on est au collège, quand on est au lycée, être dans les petits génies, c'est pas la meilleure position à avoir, et c'est là où on est souvent plus souvent victime d'harcèlement ou de, en tout cas de mauvaises intentions, de jalousie, ou bon, voilà, c'est pas le côté sympa du collège ou du lycée, mais c'est comme ça. Et puis plus tard, par contre, ces capacités-là et ces qualités-là, elles sont vachement plus mises en avant et reconnues. Et donc, du coup, ça l'a remis tout de suite sur un piédestal, à sa juste valeur. Et là, elle a totalement explosé et développé son, je dirais, cette capacité à communiquer, être avec les autres, s'entourer de gens et être tout l'opposé
Et ça, tu as
de
pu le faire ça en 5-10 minutes sur le
dix
salon, parce qu'il n'y a
minutes,
pas beaucoup.
en 10 minutes.
En 10
Et
minutes, ouais.
du coup, alors pour la petite histoire, elle, quand elle avait fait son profil, le profil qu'elle avait, à deux éléments près, c'était pas le même. Puisque justement, elle était passée par le MBTI. Et que justement, elle avait switché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle avait switché et c'était pas reconnu d'ailleurs dans le truc. Elle dit oui, bon, voilà, c'était intéressant, mais voilà. Et après l'avoir
Et
testé,
elle s'est reconnue dans ce que tu lui proposais?
ben totalement. Elle me dit, et d'ailleurs c'est marrant parce que depuis on est resté en contact et on va travailler sur un projet ensemble. Et elle me dit, mais regarde, j'ai montré son bras comme ça, elle me dit, regarde, tu vois, j'ai la chair de poule. Et elle me dit, ça a vraiment retourné. Alors c'est marrant. Alors faut faire attention aussi, c'est ce que je lui ai
Bien
dit.
sûr.
C'est pas non plus, attention, c'est un outil de travail, c'est pas non plus une religion, mais ça. Elle s'est rendue compte qu'effectivement c'était ça. Et moi sans la connaître, c'est-à-dire que moi elle arrive là, je la vois pas, je la connais pas, je lui dis bah, c'est probablement parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. Et elle me dit ah bah oui, bah, c'est exactement l'histoire de mon enfance, quoi, jusqu'à la fac. Et donc c'était marrant de voir à quel point là c'était très parlant. Parce que, et d'ailleurs, ça a tellement remué que derrière, on a rééchangé derrière et on part sur un projet avec une troisième personne là pour pouvoir développer des outils dans son domaine de compétences qui est la QVT. Donc,
Ce qui est souvent la clé avec la motivation. Où est-ce que tu places l'émotion? Parce que dans le corps, dans l'esprit?
ah bah pour moi, l'émotion est dans l'esprit et après, en fait, enfin. Pour moi, les deux sont intimement liés. Donc, par exemple, à force
C'est la
d'étudier le
passerelle,
corps,
peut-être.
de quoi?
Antonio Damasio, par exemple, dit que l'émotion, c'est ce que le corps dit à l'esprit.
Ouais. Alors,
Ouais, bon.
moi, je serais pas si. Moi, pour moi, il y a une action commune des deux et simultanée par ces histoires de chemin de pensée, justement. Et ce chemin de fonctionnement, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, à force d'observer des corps évoluer, moi, je suis un spécialiste de l'analyse du mouvement du corps dans l'espace. Et c'est ce que j'expliquais à d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger. C'est-à-dire qu'à force, si je m'arrête pas de penser, quand je vois quelqu'un se déplacer dans la rue, je suis capable de déterminer progressivement quel est son mode de fonctionnement. Alors, bien sûr, en l'objectivant par un test, mais j'ai déjà
Bien
une
sûr.
idée relativement concrète du mode de fonctionnement de la personne au niveau moteur, mais du coup aussi au niveau cognitif. Donc, pour moi, le corps parle de toute façon. Le corps parle d'une souffrance comme d'un bonheur, comme d'un plaisir, mais chacun à sa façon. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être extraverti va avoir tendance à ouvrir les bras et à prendre toute cette bonne énergie qui est dans le bonheur, et à l'inverse, quelqu'un qui sera plutôt introverti va garder ça en lui, mais va pour autant vivre quelque chose de très fort aussi. Mais pour moi, c'est des moyens d'expression qui sont différents. Mais pour autant, l'expression d'une émotion, elle est dans le cerveau et dans le corps en même temps.
Très bien. Alors justement, tu as abordé le sujet tout à l'heure. C'est vrai que quand on touche à la personne, au corps, donc à l'intime, souvent bah, on arrive à emporter la décision, alors que quand on parle sur la cognition, les gens sont plus habitués. Donc c'est une porte d'entrée qui peut faciliter aussi bah, ce que tu as abordé, la manipulation.
Bah, totalement. Et puis, de la même façon, moi, c'est le travail que j'ai fait au sein de la Fédération de kayak pendant 5 ans, pendant l'Olympiade de Tokyo, quand j'ai accompagné les équipes olympiques. C'est ça a contribué à ça. C'est-à-dire que je suis passé par le corps. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, moi, j'ai déterminé le mode de fonctionnement des personnes et j'aurais dit, bah voilà, toi, il faudrait que tu fasses attention à tel ou tel exercice, tu travailles telle ou telle chaîne musculaire préférentiellement. En plus, si tu as un choix à faire entre ça et tel exercice, tel ou tel sport, tu feras telle ou telle chose. Et d'orienter les gens, du coup, par rapport à ça. Et oui, forcément, parce que, en plus, si vous, si, par le biais de ce profilage, en fait, ça me permet de déterminer, par exemple, quelle est préférentiellement l'activité de la personne. Si quelqu'un qui est très pliométrique, qui aime bien sauter sur son avant-pied, il va choisir du volleyball, il va choisir du badminton, il va choisir éventuellement du tennis. Alors quelqu'un qui est très terrien, il va aimer, je sais pas, peut-être plus, il va plus aller facilement vers vers de la course à pied, vers du foot où on est très ancré dans le sol, ou du golf, ou des choses comme ça. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, la personne pour qu'elle puisse se relancer, elle aussi, ou qu'elle puisse se réactiver, eh ben, le fait de la conseiller vers alors lui mettre une panoplie d'exercices qui correspondent à sa réactivation de profil ou l'orienter vers un tel ou tel sport peut être intéressant pour pouvoir justement gérer cet aspect-là,
Et
de
par
manière
exemple,
plus simple.
si tu prends un vendeur, est-ce que finalement, s'il apprend à se connaître et à connaître les autres, ça ne devient pas un atout dans la relation client?
Bah, totalement, totalement. Tu vois, moi, de la même façon. Moi, ça, je l'ai développé naturellement. Tu vois, j'ai toujours eu dans ma vie cette facilité à aller vers les gens, de mon côté extraverti, discuter, d'échanger, le relationnel. Enfin, moi, j'ai toujours eu ça en moi. Et après, quand j'ai découvert cet outil-là, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, bah, en fait, tout s'explique, effectivement. Et du coup, dans la lecture de l'autre, bah, c'est vachement plus simple. Moi, je sais qu'à un moment donné, si quelqu'un, par exemple, quand je vais dans un magasin, typiquement, moi, je suis donc horizontal. Et du coup, je suis très factuel, j'ai besoin de fonctionner par étapes, de construire les choses avec un cadre très précis et tout ça. Si dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient m'agresser en frontal, qui me dit, bah, attendez, c'est ça qu'il vous faut, vous allez falloir prendre ça, bon, voilà, il m'a perdu, c'est fini, j'y vais pas. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui me dit, bah, écoutez, vous voyez, vous avez différents modèles, je vous laisse vous faire vos propres avis, vous regardez, et puis je reviens dans 5 minutes, ah, bah, là, déjà, lui, il a déjà tout gagné. Donc, à l'inverse, c'est pareil, c'est-à-dire que tes vendeurs, tu vois quelqu'un arriver, tu arrives à peu près à déterminer, donc tu vas sur des pincettes, tu vois un petit peu son mode de fonctionnement. Par habitude, je pense que ça se fait aussi naturellement. Et
Sûr.
ben forcément, tu vas dire, ben, je vais aller plutôt là, je vais lui proposer deux options, ou alors je vais en proposer qu'une, ou alors je vais lui dire, là, c'est le meilleur produit, on a une super promotion dessus. Et ça, vous allez vraiment être gagnant. Et en fonction de ça, on adapte son discours. Et forcément, on est beaucoup plus efficace. Et là, on est vraiment dans l'individualisation, quoi. C'est ça qu'on prône aussi dans la prévention, c'est-à-dire aller comprendre l'individu, faire en sorte que l'individu se comprenne pour qu'ensuite il arrive à fonctionner avec d'autres personnes de façon plus fluide, plus naturelle, et derrière que le résultat soit l'optimisation de la performance, comme dans le sport de haut niveau, comme ce qu'on a pu faire dans le sport de haut niveau, et le développer maintenant dans le monde de l'entreprise. Mais ça part d'un souci de se connaître soi-même, savoir qui on est, pourquoi on agit mal à certains moments, et puis que l'autre à côté avec qui on bosse, eh ben, il sache aussi qu'à un moment donné, si tu arrives trop en frontal avec lui, ça va pas le faire. Et du coup, il va y avoir 6 heures d'attente avant qu'il y ait un échange qui puisse se refaire. Et ben, du coup, là, on sait on va aller prendre un café avec lui. On va lui dire, bah, tiens, je voulais te parler d'un truc. Et on va pas aborder les choses de la même façon. Donc ça, c'est la stratégie globale. C'est-à-dire qu'un manager, pour moi, aujourd'hui, il doit connaître chaque individu comme un entraîneur. Il doit connaître chaque individu et comment faire pour pouvoir les faire fonctionner ensemble. Et ça, cet outil-là, pour ça, il permet ça. Et c'est assez bluffant.
Joanne Divaré, dans ta... j'aime beaucoup ta façon de faire les passerelles avec le sport et le verbe sportif que tu utilises. C'est très parlant, je trouve. Combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'un individu devienne autonome, à l'aise dans cette expertise?
J'ai envie de dire, ça dépend au moment où on l'attrape dans son histoire de vie. C'est très complexe de donner un temps, parce que si on arrive à un moment où la personne est en construction, même au niveau personnel, parce que là, il n'y a pas de professionnel ou personnel, enfin, tout s'entrebrique, quoi, tout s'entrechoque. Donc forcément, c'est très variable. Ce qu'il faut, c'est de trouver, pour moi, le plus dur, c'est de trouver la porte d'entrée. C'est-à-dire trouver la clé qui va permettre d'ouvrir la porte et que la personne soit en mesure de pouvoir rentrer dans cette curiosité intérieure, c'est-à-dire de comprendre un peu comment elle fonctionne.
Ouais.
Et
Il y en a, ils l'ont jamais fait, donc c'est une découverte.
exactement. Et moi, des fois dans le cabinet, au cabinet de
Oui, mais
kiné.
si on donne une fourchette pour que les gens se donnent une idée, il faut 2 ans, 2 jours.
Non, moi, en fait, En fait, si c'est une personne qui est déjà en recherche d'informations et qui a besoin de comprendre comment elle fonctionne, mais qu'elle a juste besoin de, je dirais, de fixer objectivement les choses, ça prend déjà rien que le bilan en lui-même, il y a une prise de conscience, il y a un intérêt qui est généré, et puis après, derrière, ça peut être peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis après, avec des feedbacks réguliers où on fait le point, bon, du coup, t'en es où? Comment est-ce que tu as perçu les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, là, il s'est passé ça. Bah
Qu'est-ce
oui.
qui est le mieux comme programme? C'est-à-dire que tu fais un programme plutôt, tu te dis, on prend 2 jours d'intensité et découverte, enfin, voilà, et puis
Ouais.
après, on fait un suivi égrené sur les 2 mois ou autre chose.
Pour moi, ce qui est important, c'est la compréhension. Moi, je suis quelqu'un qui a une compréhension interne dans mes motivations profondes. Donc, moi-même, j'ai besoin de comprendre les choses. C'est peut-être à défaut, il faut que je fasse attention aussi à ça. Mais, c'est-à-dire que d'un point de vue pédagogique, en tout cas, c'est pas un défaut. C'est-à-dire que pour moi, il faut que les gens que j'ai en face de moi, ils comprennent ce que je leur dis. Et qu'ils comprennent un peu la logique, le fonctionnement et tout ça. Et une fois qu'ils ont compris, pour moi, ils peuvent adhérer. Déjà, ça, c'est la base. Alors là, on parle de l'outil des préférences motrices et cognitives, mais c'est déjà, pour moi, c'est plus comprendre le corps humain dans son ensemble, le fonctionnement du cerveau, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a besoin de ça, pourquoi on a besoin d'habitude, pourquoi on a besoin de changer ses habitudes et tout ça. Et ça, c'est important. Donc pour moi, il faut un bloc au moins de 1 à 2 jours, je dirais, pour travailler tout autour de la santé au travail, c'est-à-dire aussi sur l'apport TMS, comprendre tout ce côté-là, le côté RPS, et puis apprendre à se connaître soi-même avec cet outil-là, et former donc ce groupe-là déjà, dans un premier temps, et puis après l'accompagner, c'est-à-dire le voir à 2 mois, on fait une petite réunion, hop, 6 mois, on refait un point, et puis éventuellement après, on refaire au besoin un petit rappel à 9, 12 mois sur une demi-journée, on dit, bah alors, c'en est où, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, ça dépend des besoins. Il y a parfois des équipes où c'est la galère, où c'est la guerre totale. Et là, bah là, on fait un truc, on fait 1, 2 jours. Après, un mois et plus tard, bam, on fait une journée. Et puis après, on recale encore une journée pour que les choses soient bien claires. Parce que moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que on peut pas dire que des gens ne peuvent pas travailler ensemble. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, bon, alors si vraiment il y a une incompatibilité totale, bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours trouver une motivation profonde commune au groupe qui permet après que chacun mette, je dirais, fasse un effort pour pouvoir travailler. Mais pour ça, il faut que chacun se comprenne et fasse cet effort de vouloir travailler ensemble et de se comprendre soi-même. Et
Tu dirais que
donc,
c'est un bon outil pour développer la cohésion sociale, la cohésion d'un groupe?
Totalement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de conflits, moi, à mon avis, qui sont dus uniquement à un manque de compréhension de l'autre. Et on le voit bien aujourd'hui, un mode de fonctionnement de culture. Aujourd'hui, on a des cultures qui sont très différentes. Tout le monde arrive avec son bagage. Et il faut comprendre cette façon de penser, cette façon d'agir, pourquoi, comment, quelle est l'histoire. Et puis, en fait, c'est en s'intéressant à l'autre qu'on comprend mieux comment chacun fonctionne et comment derrière chacun peut fonctionner ensemble. Et c'est hyper dur, je pense, aujourd'hui. Avant, peut-être qu'il y a 60 ans, on avait une culture qui était commune. Aujourd'hui, c'est multiculturel. Donc, tout le monde arrive avec sa façon de travailler, ses valeurs, ses pensées. Il faut réussir à être manager. Aujourd'hui, je pense que c'est très difficile. Il faut réussir à avoir cette curiosité d'aller comprendre l'autre, comprendre telle ou telle culture, tel ou tel mode de fonctionnement. Donc, un manager, pour moi, il doit être curieux. Il doit être humainement curieux pour pouvoir vraiment tirer les meilleurs profits de son équipe, quoi.
Et c'est ce qui donne la fierté au métier.
Ben, bien sûr. Là, j'étais juste avant, j'avais un rendez-vous avec une RH que j'essaye d'avoir depuis 3 mois parce que moi, je voulais faire mon suivi à 2 et 6 mois. Ça, c'est tout. Enfin bon, bref, résultat, le truc de 2 mois, il n'a pas été fait. Là, on se retrouve à 6 mois. Et elle me dit, bah oui. Et là, je vois toute sa détresse. Elle me dit, bah en fait, là, le problème, c'est que aujourd'hui, j'ai eu ma collègue qui est partie en décembre, elle n'a pas été remplacée. Donc, je me retrouve à faire le boulot de machin. Du coup, j'ai plus le temps de rien faire. Et effectivement, c'est une réalité. Un poste qui devrait être mis en valeur et qui devrait être enfin, vraiment, je dirais, pour moi, le poste le plus important, c'est RH, manager, vous voyez, tout ce côté un petit peu cohésion d'équipe. Et là, quand elle est là, elle me dit, bah, la pauvre, elle n'en pouvait plus. Je comprends. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave, on va faire avec, on va s'arranger comme ça. Mais c'est essentiel. Et ça, je pense que dans certaines entreprises, ça commence à rentrer. Je pense que les gens commencent à comprendre l'importance du lien social entre les gens, du lien humain qui doit être généré, qui doit être entretenu pour que l'entreprise performe.
Alors, souvent, les gens l'ont compris depuis longtemps, ça. Ils ont conscience. Sauf qu'ils n'ont pas de mode opératoire. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, c'est vrai qu'il vaut mieux, être gentil avec les gens que méchant, quoi. Tout le monde le sait depuis longtemps. Mais comment je fais? Et donc, comme en fait, il y a une façon de faire dont ils savent eux-mêmes qu'elle n'est pas vraiment constructive, mais elle tient la boutique. Et comme il n'y a pas d'alternative, c'est ce qui manque.
Bah, justement, moi je pense que un outil comme le mien, c'est un outil qui a le mérite d'exister. Il en existe sûrement plein d'autres. Après, pour moi, un outil comme ça, si on l'utilise pas avec le côté terrain et le côté vraiment humain, où on se dit, bah voilà, concrètement, aujourd'hui, toi, quand tu fais ça, quand t'es dans telle situation, telle, il faut donner des exemples concrets pour que les gens comprennent. Et je pense que parfois, sur le côté RPS, on a tendance à partir dans des explications qui parfois sont un peu trop complexes. Il faut ramener ça au terrain, c'est-à-dire faut ramener ça au le truc très basique, c'est-à-dire toi quand tu réagis comme ça, pourquoi la dernière fois que tu t'es énervé, la dernière fois que vous êtes énervé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es énervé? Alors sans jugement dire bien un tel ou je sais pas
Bien
quoi,
sûr.
dire juste qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est analyser les choses et dire bah à ce moment-là, là on s'appuie sur notre outil, on dit bah voilà, toi c'est normal, toi par exemple quelqu'un qui a besoin d'avoir plein de gens autour de lui pour travailler très relationnel, très fluide, ce côté très énergie commune, et ben à un moment donné on lui dit bah toi tu vas aller faire tu vas bosser sur un projet, mais par contre tu vas te mettre tranquille dans ton bureau là-bas, alors qu'en fait cette personne-là elle a besoin d'être alimentée toujours par des gens. Ben, au bout d'un moment on va la mettre là, elle va prendre ça un peu comme une punition. Et puis elle va se retrouver à faire son truc, et puis en plus elle va faire un truc qui va pas être terrible. Et puis après, au bout d'un moment, quand elle va rentrer, elle va un peu parce que du coup elle bascule dans son profil, donc du coup elle va se sentir un peu à l'écart du groupe parce que justement elle était partie par un besoin, je dirais, professionnel. Elle va revenir, elle va plus se sentir à l'aise dans le groupe, et il va y avoir toute une phase de décalage. Bah typiquement ça, en fait, ça s'analyse. C'est-à-dire bah voilà, peut-être qu'à un moment donné, il aurait fallu effectivement lui confier un projet comme ça, mais qu'elle revienne ponctuellement sur des réunions, sur des choses pour pouvoir se réactiver avec les gens, pour pouvoir ce petit côté relationnel, plutôt qu'aller la mettre dans un coin. Et du coup, ça aurait été, sauf que, et d'un tout petit truc qui paraît ridicule, en fait, ça, c'est comme un effet boule de neige, c'est-à-dire ça grossit, il y a un sentiment de rejet, derrière, on ne se sent pas bien, on dit, oh, je suis pas à ma place, j'ai plus mes, ces gens qui me, elle est plus valorisée par son entourage et tout ça, et puis après, derrière, boum, après, ça explose. Mais c'est rien, c'est-à-dire, mais en analysant les choses, on se dit, bah voilà, c'est à un moment donné, bah hop, il t'aurait dû faire des allers-retours plus réguliers pour pouvoir te réalimenter un petit peu, repartir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ce côté.
Oui. Donc ça permet de lutter contre la défiance parce qu'en fait on n'était pas dans la bonne situation.
Ouais.
Si toi tu rencontres un responsable de formation qui se dit ça me plaît bien, par quoi il commence?
Bah là, je pense que. Moi, là. Le plus important, c'est déjà que ce responsable-là, il puisse comprendre et vivre les choses. Donc pour moi, ça, c'est la base. C'est-à-dire que si toi, tu le sais toi-même, c'est-à-dire tant que tu n'as pas vécu les choses, on peut t'en parler. Si tu ne l'as pas vécu toi-même et que tu te rends compte de l'outil et de ce que ça génère, toi, tu peux pas tu vas dire, bah, tiens, on va faire ça. Ou alors, on peut le faire, mais ça aura beaucoup moins d'impact. Parce que le but du jeu, c'est que tout le monde soit convaincu que c'est un outil qui est intéressant et que c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais que surtout, qui fonctionne. Et c'est vrai que typiquement sur le salon Solutions RH, il y a pas mal de personnes qui, au bout d'un moment, sont venues me voir en me disant, bah, tiens, j'ai entendu dire que tu faisais ça, je voudrais tester et tout, et pouvoir le vivre. Et ça, pour moi, c'est la première des choses. C'est-à-dire prévoir un moment, un rendez-vous. On fait le test, on le fait avec la personne, et elle se dit, ah ok, d'accord. Et là, du coup, dans la tête de la personne, pour moi, d'emblée, elle va se dire, ok, là, je vois l'intérêt et je vois comment je peux l'utiliser. Parce qu'après, moi, j'ai mon mode de fonctionnement,
Bien sûr.
j'imagine des choses, et après, cette personne-là aura son mode de fonctionnement avec ses contraintes. Et une fois qu'elle aura vécu ça, elle va se dire, ok, là, ça, je pourrais le faire pour ça, 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 en développant de telle ou telle façon. Et les choses seront beaucoup plus parlantes. Parce que c'est vrai que
Donc,
là, l'expliquer comme ça.
ce qui est très bien dans ce que tu dis, c'est que ça incarne, au sens étymologique du terme, ça fait chair.
Ouais.
Donc, le modèle qui est bien sûr abstrait par définition, puisque c'est un modèle, finalement, il rentre dans la pratique. Donc, ça, c'est très bien. Donc, tu dis, premier élément pour le responsable de formation, bah, teste-le. L'essayer, c'est l'adopter. Il y avait une publicité qui disait ça. Voilà. Une fois qu'elle a adopté, qu'est-ce qu'elle fait?
Et ben après, pour moi, il faut cibler un petit peu les priorités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a plusieurs services qui sont en dysfonctionnement, ou s'il y a quelque chose qui est récurrent sur l'absentéisme, sur l'accidentologie et tout ça, il faut se poser les bonnes questions. Et après ça, on le détermine ensemble, c'est-à-dire qu'on Nous-mêmes, on regarde un peu les chiffres d'accidentologie, les périodes, pourquoi à tel moment, telle raison, c'est quoi le rythme de travail sur l'année, sur une semaine, sur une journée. Essayer de comprendre un peu tout le fonctionnement même de l'entreprise et à partir de là, de dire, bah là, le plus gros problème aujourd'hui, c'est ça, et ben on va s'attaquer à ça. Donc du coup, c'est-à-dire, pour moi, le mieux, c'est de faire un groupe témoin, c'est-à-dire qu'on l'essaye avec un petit groupe, un service. Et on va commencer par les managers et on va mettre aussi des référents. Et dans cette dynamique-là, dans le côté prévention santé, ce qui est important, c'est d'avoir des référents sur le terrain. C'est-à-dire que des
D'accord. Ils
gens
font quoi?
qui vont avoir un peu cette casquette référent santé. C'est-à-dire que ils vont de part, il faut que ça soit plutôt par, je dirais, motivation de l'individu, quoi, c'est mieux, mais qu'il y ait une reconnaissance réelle qui soit mise en place par l'entreprise pour pouvoir dire, ben, si vous avez une question à poser sur cette problématique-là, le relais, c'est lui. Et donc moi, pareil, j'ai des gens comme ça, par exemple, là, j'étais à l'ENS, à l'École Normale Sup, et ben j'ai quelqu'un avec qui je suis en relation et avec qui on échange sur ces problématiques. Il m'envoie un mail, il me dit, écoute, là, on a fait ça, j'ai fait une formation chez eux, là, il y a 2 mois. Et il me dit, écoute, là, j'ai pas réussi à faire ça. Le réveil musculaire, on a fait ça, mais ça n'a pas marché parce que nanana. Et moi, je renvoie un mail ou on s'est au téléphone. Et alors ça, c'est important parce que là, autant pour moi qui suis à l'extérieur et qui va travailler avec le... Moi, ce que je propose, c'est un accompagnement. C'est pas du one shot. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vraiment avoir un vrai accompagnement avec l'entreprise et avec les individus. C'est-à-dire trouver des solutions. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le groupe, s'il y a une personne qui est RQTH, eh ben, je vais me mettre en relation avec une société qui propose des outils qui permettent de soulager les tensions musculaires dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de réussir à trouver une solution à chaque problématique et d'accompagner les gens. Et donc ce référent, lui, au sein même du service, eh ben, à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui se plaint d'une douleur, ou il y a des choses qui apparaissent, eh ben, les premiers signaux, ils vont être pris par lui. Et après, derrière, on va dire, bah voilà, tiens, Johan, j'ai ça. Quelle est la solution qu'on peut apporter à ça? Je veux dire, bah, pour répondre à ça, si c'est un problème juste de fauteuil, de machin, il existe ça, 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 et après, on trouve des solutions comme ça. C'est-à-dire que ce référent-là, en plus, ça lui donne une plus-value dans le groupe, c'est-à-dire mettre en valeur un peu ces personnes-là. Pourquoi pas prévoir sur la semaine QVCT, là, c'est la semaine prochaine, avoir tous les référents en santé de chaque service qui se retrouvent, qui organisent eux un petit événement et qui soient à l'origine de ça. Enfin, ça peut, et c'est comme ça qu'on crée en plus une énergie positive au sein de la boîte, au sein de l'entreprise, parce qu'on dit, bah, tiens, fais attention à nous. Et c'est pas qu'une croix cochée un jour sur une journée de formation, quoi. Et pour moi,
Ce
ça,
qui est
c'est
déjà
important.
très bien d'avoir un titre, ou même quand le titre n'est pas RNCP, d'avoir un open badge ou quelque chose en genre pour dire on vous reconnaît socialement dans ce que vous faites, vous avez une légitimité. Donc ça, tu as raison, c'est très bien. Et alors ceux qui pratiquent à la base, donc les salariés qui ne sont pas référents, il n'y a pas de communauté pour eux, c'est que quand il y a des problèmes qu'ils vont voir le référent.
Après, moi là, ce qu'on a instauré par exemple à l'ENS, c'est des causeries. C'est-à-dire que l'idée, c'est de régulièrement, entre le référent et les employés, soit, après moi, ce que j'ai quand même préconisé c'est dans ce cadre-là, c'était de dire que bon, le référent, ok, lui, c'est lui qui est un petit peu plus concerné par le sujet, mais ce qui est bien, c'est de faire tourner la
Tu
parole.
dirais c'est l'animateur bien-être?
Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est un peu
Ouais,
ça, ouais.
d'accord.
C'est-à-dire que c'est lui qui se préoccupe un peu plus de ces sujets-là. Mais c'est important de faire participer tout le monde, parce qu'une fois de plus, en fonction du profil de chaque individu, il y a des personnes qui ne vont pas oser s'exprimer. Et souvent, moi, je le dis en formation, et c'est bien souvent des gens qui ont des choses très intéressantes à dire. Parce que les gens qui parlent le plus, c'est les gens qui sont extravertis. Et après, par contre, c'est pas pour autant que les gens qui sont introvertis, ils n'ont pas des choses intéressantes à dire. Et le fait de faire un bâton de parole, c'est-à-dire faire dire, bah voilà, cette fois-ci, on a 20 minutes de discussion, c'est toi qui vas parler. Et va amener où il va amener son sujet. Et derrière, peu importe, que ce soit sur la prévention santé ou sur une problématique qui est liée au travail ou à un truc logistique, mais d'organiser ça régulièrement, même une fois par mois, une demi-heure de causerie. Hop, et à chaque fois, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça, c'est important parce que ça crée un moment vraiment prévu pour ça. C'est pas juste quand on boit le café et puis hop, finalement, il y a une urgence à quelqu'un qui vient de nous, puis finalement, bam, ça saute. Là, c'est bloqué. C'est-à-dire que il y a ce moment-là, c'est bloqué et c'est à ce moment-là qu'on. Et ça, pour moi, c'est indispensable parce que ça permet de. Même s'il n'y a pas de problème apparent, il y a toujours des petits trucs qui traînent. Et donc, du coup, le fait d'organiser ces moments-là, ça évite que c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'avant que la boule de neige ne devienne trop grosse, eh ben, on l'arrête et hop. et on l'a réduit à néant. Et après, on repart sur de nouvelles bases.
C'est une parenthèse dans un monde qui s'accélère, et donc ça, c'est indispensable pour se retrouver.
Exactement. Tout ça, en plus, couper des écrans, un moment off total, où là, c'est dédié à ça, à la discussion, à l'échange. Et donc, du coup, pour revenir à cette histoire de mise en place, quel est le plan d'action, pour moi, c'est ça. C'est déjà soi-même être convaincu de l'intérêt de l'outil. Derrière, former pourquoi pas même dans les grosses sociétés, former tous les référents ou faire un service témoin où là on fait les managers plus les employés, mais tout le monde en même temps. Et puis on travaille sur le même pied d'égalité pour bien comprendre les choses. Et après, chacun repart avec ses petites infos sur soi-même, mais aussi sur l'autre. Et après, derrière, ça permet aussi, après, pourquoi pas ajouter à ça au manager une sorte de petite fiche technique en disant attention, avec tel profil, il faut faire attention à ça, avec peut-être des garde-fous, attention à la façon dont on va aborder les choses, jamais être. Et toutes les petites préconisations qu'on peut avoir, qu'on a de toute façon naturellement dans la tête, mais là qui, du coup, vont être objectivées par des petites traces écrites où on va se dire bah voilà, là, ok, là, j'ai fonctionné comme ça. Et je pense que c'est comme ça, c'est en s'intéressant un petit peu plus à l'autre, que finalement on peut faire avancer les choses aussi.
Exactement. Et donc j'aime beaucoup ton approche, qui est une approche qui relie le corps et l'esprit, donc qui sort un peu de cette logique de la rationalisation extrême qui est celui de l'Occident. Et donc ça permet de réouvrir à une nouvelle humanité. Voilà. Et avec une méthodologie. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est pas, il faut faire attention aux autres, etc. Donc ça c'est passionnant ce que tu dis. Si tu avais, pour conclure, quelque chose à dire
Sur un thème en
sur le
particulier.
bien-être, ouais, de sur ce que tu préconises.
Aujourd'hui, moi j'ai une histoire un peu particulière. Je viens du sport de haut niveau. Moi, j'ai mon père, moi personnellement, a commencé à travailler, il avait 13 ans. Aujourd'hui, il a 72. Et je vois les méfaits du travail. Je vois aussi les bienfaits parce que ça maintient des corps en action et en pleine vie, mais je vois aussi tous les méfaits. Et je me dis que vraiment, il y a quelque chose à faire de l'ordre de la compréhension du corps, du mode de fonctionnement du cerveau et du corps humain à mettre en place, à augmenter la qualité des prestations de formation, de prévention, leur redonner vraiment leur place, je dirais, dans le monde du travail, pour qu'à la fois l'entreprise soit performante, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, et ça, moi, j'en suis convaincu, mais qu'aussi les gens prennent du plaisir à être performants. Parce qu'on peut prendre du plaisir à être performant, à être dans des
Exactement.
conditions
C'est là où, quand tu
de.
dis prévention, le terme me gêne un peu parce qu'il est connoté socialement.
Ouais.
Là où je trouve qu'on peut être militant du bien-être, et donc ça devient un projet de vie, de vivre bien, et donc ça devient éthique, voilà, sans fonctionner par les risques, mais par le plaisir qu'on peut en avoir, l'érotisation du bien-être.
Ouais.
Je trouve que c'est des choses qui, dans le verbe, qui sont intéressantes, mais tu as raison, dans les entreprises, on préfère souvent parler de prévention. C'est plus calibré comme ça, mais c'est plus calibré pour le risque. Alors qu'en fait, il y a toute une éthique de vie nouvelle où les individus peuvent affronter différemment les épreuves parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils connaissent les autres, ils apprennent à les connaître. Et donc, ben, c'est le chemin qui est important plus que l'objectif. Mais ça permet d'avoir un beau cheminement de vie professionnelle.
Et puis moi, pour finir aussi avec le côté sportif de haut niveau, pour avoir croisé beaucoup de sportifs de haut niveau, un sportif de haut niveau qui performe sur la durée, c'est un sportif de haut niveau qui va bien dans sa tête, qui est bien, qui a trouvé un équilibre, qui sent bien où il est, dans ce qu'il fait, dans la façon dont il fait. Et pour moi, un employé comme un sportif de haut niveau, dans une autre proportion, ça doit être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un employé, quand il doit aller au travail le matin, il doit être content d'y aller, il doit être là pour vraiment servir bien sûr l'entreprise, mais aussi en restant dans un mode de fonctionnement naturel par rapport à qui il est, ce qu'il est, ce qu'il représente et comment il voit le travail aussi.
Et ça se travaille, donc c'est ça le sens
Et
des
ça, c'est
choses.
un travail de fond.
Exactement, bravo. Alors, ceux qui t'adorent, qui ont envie de parler avec toi, c'est quoi ton média de connexion?
Alors moi, je suis principalement sur LinkedIn.
D'accord.
J'écris des articles régulièrement sur toutes les thématiques de TMS, RPS. Vous me retrouverez sur LinkedIn en tapant Johan Divaret, Johan Divaret, Divaret, Divaret. Et après, Je serai aussi présent sur, je fais une conférence sur le festival de la prévention au pavillon Baltard les 2 et 3 juin prochains. Alors pour ma part, ça sera le 2 juin à midi 15. Donc festival de la prévention qui est organisé par InfoRisk. Et ça, vous pouvez regarder directement. Soit vous allez directement sur mon site et il y a un lien pour pouvoir aller sur le festival de la prévention. Et on
Alors, ton
aura un
site?
stand sur le site, donc cinesis.fr, c'est cinesis.fr. Si vous voulez me joindre par mail, vous pouvez aussi, bien sûr, Johan, donc johadezen.divare@cinesis.fr. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, je vous répondrai. Et puis voilà.
Ben, impeccable. Johan, donc j'ai dit Johan pendant tout
C'est pas
l'interview.
grave, je suis habitué.
Johan Divaré, donc retenez ce nom, suivez-le parce que c'est des choses intéressantes et ça permet, si le sujet vous intéresse, creuser. En tout cas, merci beaucoup, Johan,
Merci à toi,
et
Stéphane.
merci à tous. Au revoir.
Merci, au revoir.